Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Comme c'est généralement à l'occasion des fêtes et des congés que l'on fait les pires vacheries au peuple, je m'abstiens de prendre congé et je maintiens ma chronique encore aujourd'hui, 14 juillet. Alors, a pour titre justement, cette fois-ci, l'escroquerie monétaire actuelle sert l'avènement proche du gouvernement mondial. Dans l'actualité économique monétaire, je relève tout d'abord la présentation au récent G8 d'Aquila, en Italie, de la monnaie mondiale, sous la forme d'une pièce d'or, paraît-il au nominal libellé en euro-dollar. Il semblerait que le gouvernement mondial espéré par les francs-maçons depuis plus de 5 siècles soit en passe d'imposer une seule et unique monnaie dans le monde entier dans les prochaines années. Nous retrouvons là l'escroquerie classique à la monnaie unique à laquelle il vaut mieux préférer la notion de monnaie commune. En effet, des monnaies différentes, mais exprimées selon des parités officielles entre elles, constituent une monnaie unique. Si ces parités sont constituées d'un poids d'or, il s'agit alors d'une monnaie unique en or, même si les pièces ou les billets locaux sont différemment pesés, frappés ou imprimés. Nous avons déjà connu des périodes de monnaie commune, comme l'Union latine. Nous y reviendrons dans les chapitres de mon histoire de la monnaie consacrée à l'époque récente. L'escroquerie consiste à imposer une soumission forcée à un gouvernement mondial de toutes les souverainetés locales comme une nécessité. En fait, il n'y a aucunement lieu de renoncer à notre souveraineté pleine et entière dès lors que la parité monétaire est officielle et qu'elle est soutenue économiquement par une identité de pouvoir d'achat du travail horaire entre les États, notion que défend vainement le BIT depuis sa création. Quant à ce même pouvoir d'achat horaire du travail, il est aisé de le hiérarchiser selon sa valeur ajoutée. Pour préserver la liberté, il faut et il suffit de faire preuve d'honnêteté et de vérité dans les choses économiques comme dans tout. Dans l'actualité économique générale, je vous requiers de ne pas accorder la moindre confiance aux chiffres du PIB qui vous sont assénés quotidiennement avec leurs dérivés, ratios et commentaires fumeux. La récession affichée de moins 3% du PIB français est fausse dans tous les aspects. La notion même de PIB est contraire à celle française de PNB. C'est sous VGE, Valéry Giscard d'Estaing, que la notion française de PNB, produit national brut, a été abandonnée par la comptabilité nationale pour celle anglo-saxonne de PIB, produit intérieur brut. Cette notion de PIB a conduit à enchâsser la France, réduite à l'hexagone, mot horrible, dans l'Union européenne centralisée et régionalisée. Les PIB nationaux sont aussi truqués et dopés maintenant qu'ils servent d'instrument de comparaison entre États que les sportifs depuis les années 50 au motif de la volonté de chacun des deux grands blocs de dominer l'autre. Sachez que le PIB français augmente chaque fois qu'un fonctionnaire est embauché et donc que la charge publique augmente. C'est incroyable, n'est-ce pas? Réduisez-le à sa seule composante de production réelle et vous le voyez dégonflé d'au moins 30%. Et les ratios basés dessus s'envolent bien au-delà des limites maastrichtiennes depuis toujours. Depuis 92. Quant au prélèvement obligatoire, il dépassait en 1985 à 105% la masse monétaire. Actuellement, plus de 85% et presque autant sur le PIB réel. Vous ne devez relever que les chiffres bruts, jamais les données corrigées des variations saisonnières et en plus actualisées de l'inflation avant de comparer les PIB définitifs d'une année sur l'autre et jamais plus vite. C'est un moyen de vous conduire par le bout du nez, le nez sur la vitre et de vous mentir en permanence. Mon conseil patrimonial du jour se situe dans l'actualité financière. Je relève que le différentiel entre les agios de crédit divers aux ménages, qui voisine les 20% en l'an, tout compris, taux d'intérêt, assurance et frais, et la rémunération courante de leur épargne de précaution de moins de 2%, donc dans un rapport de 1 à 10, est une escroquerie qu'un État gouverné par un chef honnête ne devrait pas tolérer une minute. Qui plus est, la fameuse hiérarchie des taux qui, lorsqu'elle est contrainte par les taux courts en dessous des taux longs, est depuis longtemps, trop longtemps, inversée en France. Les taux longs qui arrangent la dette perpétuelle de l'État sont à moins de 7%, l'État lui-même n'empruntant qu'à moins de 3%, quand les taux courts dépassent les 20% en taux actuariel et tout de même les 9% pour l'État. Cela signifie une seule chose, nous sommes depuis plus de 25 ans dans une crise permanente dont la gravité ne cesse d'augmenter et qui doit conduire logiquement à l'effondrement du système. D'où la volonté, exprimée encore visuellement, officiellement, à l'automne dernier 2008, des diverses sectes noires, réunies en obédience, elles-mêmes groupées en une fraternelle mondiale, de s'en sortir par le haut, comme on dit, en imposant une monnaie mondiale destinée uniquement à noyer le poisson. N'empruntez donc pas à des taux d'escroquerie auprès des banques qui vous rémunèrent votre épargne avec des nefs. Trop, c'est trop. Je vais terminer ma chronique, comme d'habitude, par un chapitre, le chapitre 10 de mon histoire de la monnaie, intitulé « Un roi faux monnayeur, point d'interrogation ». Cette réputation à coller partout à Philippe IV le Bel vient d'abord de la répétition des changements dans le contenu en argent pur des différents petits deniers populaires durant cette courte période d'une génération seulement, et ensuite de cette double réforme monétaire de 1295, malencontreusement suivie d'une autre en 1313. Voyons d'abord le deuxième volet de la réforme de 1295. Toujours contraint par l'insuffisance d'argent métal pur disponible, le roi dut dévaluer la livre tournois à 63,21 g au lieu de 84,31 g de Saint-Louis, soit moins 25%. Ce faisant, le roi déshabille les banquiers et les hauts personnages qui manient la monnaie scripturale et disposent d'importants actifs en livre tournois, ce qui fait gronder la noblesse. Le petit peuple, lui, ignore la livre tournois dont il n'a pas l'usage. Pour apaiser un peu la noblesse, une livre tournois d'or est inventée, divisée en 10 masses, de chacune 6,4036 g à 99 de fin, c'est-à-dire 99%, soit 6,321 g d'or pur. La même livre tournois de 63,21 g, mais en argent cette fois-ci, est divisée en 150 nouvelles pièces appelées double deniers, qui n'en contiennent donc plus chacun que 0,4216 g. Le petit peuple, qui ne regarde que son porte-monnaie, voit bien que les deux anciens petits deniers de chacun 0,28 g, pesant plus lourd donc à 0,56 g d'argent qu'un seul nouveau pseudo-double denier de 0,42 g. Il se sent donc floué encore une fois, et il thésaurise les vieux petits deniers. Comme la connaissance de ces réalités se répand, tout le monde, noble et roturier, thésaurise des anciennes pièces de tout type et n'utilise que les nouvelles dans les échanges courants. Les nobles fuient la monnaie scripturale et se font rembourser par les banquiers en pièces concrètes les actifs scripturaux. Les banquiers ne font donc plus de crédit au roi, ils n'ont plus rien. Le trésor royal manque d'argent. Le peuple gronde. La situation devient alors la suivante. Avec 20 anciens gros de Saint-Louis IX, on obtient une livre tournois ancienne, donc de pesant 84,31 g d'argent pur. À la frappe libre, 200 nouveaux doubles deniers qui redonnent à leur tour une livre 33 nouvelle, avec donc un gain de monnaie scripturale de 33% à chaque tour. Les nobles, disposant de masses importantes de monnaie scripturale et concrète, spéculent alors et multiplient l'opération que les petits porte-monnaies populaires ne permettent pas. L'expression « l'argent va à l'argent » daterait, selon moi, de cette année noire de 1295. Ce faisant, la monnaie métallique sort donc des caches quand même. Elle arrive chez les banquiers et au trésor royal contre une majoration de 33% de l'actif en livres tournois scripturales. Cet afflux de métal permet à nouveau l'émission de deniers de tout type. Mais ces astuces royales méritoires trouvent très vite leurs limites, 8 ans, En 1313, une nouvelle réforme monétaire est enclenchée par la création d'une nouvelle pièce, le bourgeois fort. À ce moment-là, le ministère des mots avait également été inventé pour l'occasion. En effet, ce bourgeois fort ne pesait que 0,44 g d'argent pur, soit à peine plus de 4% plus lourd que le double denier précédent. Noyé dans une pièce de 5 ou 6 grammes, la différence de poids d'argent pur importe peu, mais l'effet psychologique est désastreux. Cette tentative de mettre un peu plus d'argent dans les pièces courantes renforce les grondements populaires et la spéculation au lieu de les apaiser. Il est également créé un agnel pesant 4,13 g d'or pur. Il en faut donc 15 pour retrouver la livre tournoi d'or et donc 3 pour 2 masses d'or. Ce faisant, le rapport de l'or à l'argent est descendu à 10 pour 1. Cette réévaluation de 100% de l'argent en or répondait peut-être à deux soucis généraux. Réduire les bénéfices du commerce vénitien avec les Indes, concrétiser le nivellement des cours internationaux qui résultaient des différents et des importants échanges or-argent depuis 3 décennies. Mais le petit peuple ne touchant guère aux pièces d'or, représentant un pouvoir d'achat dépassant ses échanges annuels, ne fut guère sensible à cette réévaluation. Par contre, la noblesse s'est vue amputée de 50% du pouvoir d'achat en argent de ses stocks de monnaie d'or. Certes, ils ont pu compenser par X fois le tour à 33%. Elle n'a sans doute rien perdu, la noblesse. Le roi meurt un an plus tard, en 1314, avec une réputation justifiée de manipulateur des valeurs monétaires, aussi bien chez les nobles que chez les peuples. En somme, il a mis tout le monde d'accord contre lui. Comme quoi, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Mais ces manipulations correspondent-elles à une émission volontaire de fausse monnaie qui pourrait justifier cette réputation de roi faux-monnayeur ? Pour qu'il y ait fausse monnaie, il faudrait qu'il y ait tromperie sur la marchandise, sur le contenu des pièces. Par exemple, il eût fallu que les petits deniers courants ne contiennent plus la quantité d'argent nominalement affichée par les symboles sur les deux faces. Toujours, de nouvelles pièces, nouvellement frappées, ont affiché cette différence, officiellement, avec les précédentes pièces, tant chez les pièces d'or que chez les pièces d'argent. Il n'y a donc jamais eu tromperie sur la marchandise. Les manipulations monétaires qui ont permis la spéculation entre pièces anciennes, monnaie scripturale et pièces nouvelles étaient donc prévisibles et inhérentes au système métallique, placé sous la double contrainte de l'insuffisance de minerais et d'une émission de pièces en forte augmentation. De plus, cette spéculation a tourné à l'avantage du stock royal d'argent métal pur grâce à l'habileté du roi et de ses conseillers. Ces manipulations monétaires n'ont donc rien à voir avec une émission de fausse monnaie et donc la réputation de Philippe le Bel est injustifiée par les faits. Un roi ne peut d'ailleurs pas émettre de fausse monnaie de par son statut même. Dans notre prochain chapitre, nous trouverons la conclusion logique de ce parcours détaillé de l'époque de Philippe le Bel. Je voudrais rajouter un renvoi sur la frappe libre. Qu'est-ce que la frappe libre ? Elle fut supprimée sous Mitterrand, donc très récemment, si je me rappelle bien. Il s'agit de la pratique perpétuée chez le comptoir Lyon allemand, notamment, de faire fondre ses pièces d'alliage ou ses lingots et d'obtenir en échange de nouvelles pièces frappées selon les dernières normes. C'est ainsi que l'on pouvait encore faire fondre des lingots à 999 millièmes de fin pour obtenir à la place des Napoléons à 900 millièmes de fin seulement avec une plus-value égale à la différence de cotation entre le lingot d'un kilo et les 172 Napoléons que l'on pouvait obtenir. Comme il est arrivé que le Napoléon fasse prime de bien plus que 20%, même net des frais du comptoir Lyon-Allemand, vous voyez le topo. Il suffisait ensuite de racheter un lingot avec le produit de la revente des nappes et de recommencer, en passant donc par la monnaie scripturale, comme d'habitude. Il était ainsi possible de se faire plus de 20% par mois il y a 30 ans. C'est peut-être pour ça que la frappe libre a été supprimée, mais c'est une amputation injustifiée de la liberté. Voilà, bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle, bonsoir madame, auditeur de Radio Silence. À bientôt.